Alors voilà pour la première violence, puisque j'ai défini, moi, dans la formation de la violence, qu'il y a deux origines à la violence. Il y a donc l'origine orale, où vous avez manqué les besoins de l'enfant qui manquait de tout dans la première année, vous n'avez pas deviné ça, et il s'est arrangé pour mettre toujours quelque chose en plus, le pouce ou autre chose, et plus tard il mettra différentes choses que vous n'apprécierez pas. Ou bien vous avez réussi le stade oral, votre enfant va très bien, mais quand il arrive à un an, il commence à marcher, à vouloir attraper les choses, qu'il soit à quatre pattes ou debout, il voit les objets de son désir, il veut les prendre. Et à ce moment-là, il n'a aucune discrimination de ce qu'il peut prendre ou pas. Et c'est à vous de dire non, non pas ça, non pas ça. Et la plupart des parents, aujourd'hui, je me heurte de façon générale et globale à des parents qui ne veulent pas dire non à l'enfant. Il est impossible de faire dire à un jeune parent non, ça, non. Quand il voit l'enfant se mettre en colère, il l'écoute un moment et puis il lâche tout. Mais tu le veux, tiens. Et il le lui donne, alors qu'ils avaient dit qu'ils ne le donneraient pas et que ce n'était pas son objet. Si votre enfant est près du feu, qu'il attrape, je ne sais pas, il a 12 mois, il attrape un petit balai en bois avec 4 poils au bout, ce n'est pas trop méchant encore, mais s'il attrape les pincettes et la pelle en fer, évidemment, qu'il faut dire non et l'enlever. Et puis avec une voix forte qui fait voir que vous ne voulez pas. À partir du moment où l'enfant marche et veut atteindre son désir, il faut voir qu'il y a deux désirs, le vôtre et le sien. Et c'est là que l'enfant apprend à respecter l'autre. Cette imbécilité que nos lycéens écrivent sur les murs des lycées, respectez-nous et on vous respectera, et tout à l'envers. C'était nous qui devions nous faire respecter, nous et notre désir, et nos enfants allaient l'apprendre si on l'avait fait sur la deuxième année. Mais si on le fait sur la sixième année, ils ne l'écouteront pas. Et ils ne respecteront pas nos interdictions. C'est au cours de la deuxième année qu'on voit un enfant faire des caprices épouvantables, se rouler par terre, taper dans les murs, nous donner des coups de pied dans les tibias, parce qu'on ne veut pas faire sa volonté. Ça ne veut pas dire qu'il faut mollir pour autant, et qu'ayant supporté des cris atroces pendant un quart d'heure, il va falloir tout lâcher. Pas du tout. Il faut prendre l'enfant par la main, par le bras, par ici, par là, par où vous voudrez, et lui dire « Je vois que tu es très en colère. » L'enfant dit « Oui, tu es très en colère, je ne veux pas que tu prennes ça et tu ne le prendras pas. Maintenant, si tu veux continuer à faire ta colère, moi je t'emmène dans ta chambre et tu casses tout ce que tu veux. Dans ta chambre, c'est à toi, mais ici, c'est à moi. » Il faut commencer à dire « à toi, à moi », sans arrêt, « à toi, à moi ». L'enfant prend aussi bien le sac à main de sa mère, il le débarque, le poudrier, les sous, tout, les petits ciseaux, les papiers d'identité, tout. La mère arrive, tout est par terre. « Oh, dit-elle, tu m'as tout vu sur par terre quand même. Hein. » C'est tout ce qu'il aura, il n'y a aucune dispute pour dire « mais c'était à moi ». Il faut tout de suite manifester qu'on a un « moi ». Sans ça, l'enfant ne prendra jamais l'habitude de respecter les mesures du moi de l'autre. Tout ce qu'il a envie, c'est à lui. Pourquoi ? Parce qu'il est un enfant et parce qu'on lui passe tout. Alors, je vais vous dire pourquoi on lui passe tout. Il y a deux raisons extrêmement importantes. En 1968, on a eu une révolution, ce n'était pas pour rien. Ça a fini qu'on a été du côté de ce qui est cool et gentil, en imaginant que le monde entier pouvait être bon et gentil, tout le monde pouvait s'aimer, etc. Ce qui est une erreur, l'amour et la haine sont groupés, nous aimons certaines personnes, nous en détestons d'autres, pour des raisons très particulières. Et à ce moment-là, on a écrit cette phrase célèbre, « Il est interdit d'interdire ». À partir de là, les parents ont pensé qu'on pouvait faire marcher les enfants sans interdit. En plus, il y avait derrière Françoise Dolto, très grande psychanalyste, qui avait découvert énormément de choses à propos du langage avec les enfants, et qui disait « Vos enfants ne sont pas des bêtes », en ce sens, elle avait tout à fait raison, « Ce sont des êtres humains, ils vous comprennent, vous expliquez pourquoi il ne faut pas prendre la pelle, et vous verrez, il ne la prendra pas. » Eh bien, moi, j'ai vu une fois une jeune femme qui m'a dit « Madame, je suis devant vous, vous êtes analyste, moi, j'ai été élevée à la Françoise Dolto. » J'ai dit « Ça veut dire ?» Ça veut dire qu'on m'a expliqué pendant des heures ce qu'il ne fallait pas faire. Et j'ai dit résultat, ça veut dire que je suis coupable avant de toucher toute chose et que ma culpabilité est tellement grande que maintenant je suis obligée de venir faire une psychanalyse pour guérir de ma culpabilité. Alors je me suis dit, quand on est psychanalyste, il faut faire attention à toute chose parce que dire qu'un enfant comprend, c'est vrai, mais dire qu'il a la raison pour se garer parce qu'il a compris, non. Il a la volonté de dire « moi ». Il est en train, comme madame en a parlé tout à l'heure, de vouloir s'ascensionner dans son moi et exister à part de nous. Donc il lutte avec une violence énorme contre son parent pour dire « tu ne veux pas, bon je vais passer par derrière, je vais l'attraper quand même ». Il fait n'importe quoi pour arriver à nous dominer. Et nous devons être sûrs que c'est nous qui avons la domination. Il n'est pas question de voir des parents qui disent « je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi faire, il me rend folle ». Non, il n'en est pas question. Vous prenez l'enfant, vous le mettez où ça vous fait du bien de le mettre pour redevenir calme. Et l'enfant se dira que chaque fois qu'il fait ça, vous le mettez dans la pièce noire à côté, ou vous le mettez dans le couloir tout seul, ou je ne sais pas quoi. Hein. Mais vous faites quelque chose qui signale qu'il est allé trop loin, hein, et que vous n'avez pas l'intention de vous laisser dévorer. Cette bagarre de l'âge anal est rendue très difficile, donc par 68, et rendue très difficile par l'état actuel des mères. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons beaucoup bagarré avec le féminisme, et moi une des premières, pour avoir le droit de travailler, de nous développer, de faire des études, d'avoir des postes intéressants, d'avoir une vie intéressante, ce qui ne voulait pas dire pour nous couper à toute reproduction. On voulait toujours aimer faire des enfants, mais à la suite de quoi on voulait retrouver son poste, directrice je ne sais pas quoi, de gérante d'autres choses, etc. C'était tout à fait normal. Mais on n'a pas fait attention. Qu'en disant cette chose-là, on ne s'est pas rendu compte que les mères, on n'avait pas pris les décisions qui convenaient avec les hommes pour que les femmes ne restent pas entièrement chargées des bébés. Et les femmes sont restées chargées des bébés jusqu'à il y a environ 1 ou 2 ans, jusqu'à ce qu'une psychanalyste comme moi fasse un petit livre rouge qu'elle a sur la table où je dise au père, mais monsieur, vous n'êtes pas utile parce que vous êtes costaud. Vous n'êtes pas utile parce que vous êtes grand, vous n'êtes pas utile parce que vous êtes beau, vous êtes utile parce que vous êtes un homme, que vous avez une odeur d'homme, une voix d'homme, et que quand vous tenez votre bébé sait très bien que ce n'est pas sa maman. Et vous êtes utile parce qu'il faut 2 parents. Et il faut 2 parents parce que vous êtes en train d'hurler qu'à chaque divorce, on vous enlève le bébé en disant qu'il n'est pas à vous puisque vous ne vous en occupez pas. Je dis, si vous voulez garder vos bébés au moment du divorce, prouvez à la société entière, prouvez aux juristes qui sont là pour en décider que votre enfant connaît aussi bien son papa que sa maman et que lui ne choisira jamais maman. C'est en général le contraire qui arrive. Si vous questionnez un enfant qui a 5, 6 ou 7 ans, et on lui dit, tes parents vont se séparer, où veux-tu rester? On lui demande ça dans l'intimité, de préférence pas le juriste. Hein. Il répond, moi je veux rester avec maman. Pourquoi il veut rester avec maman? Parce qu'il connaît maman depuis toujours. Il connaît le corps de maman, la bouche de maman, la peau de maman, l'odeur de maman, depuis tellement de temps qu'il paraîtrait criminel de le mettre chez un père qu'il connaît à peine. C'est pour ça qu'il était nécessaire d'écrire des bouquins psychanalytiques à propos du père. Je pense que les pères ne se doutaient pas qu'ils avaient une odeur charmante pour le bébé, des bras vigoureux, une parole différente, ils sont plus moteurs. Ils faisaient sauter le bébé, c'est-à-dire que le bébé aimait bien ça, maman ne le faisait pas, mais l'autre le faisait. Et la mère et le père faisaient l'un et l'autre, sans qu'on sache que ce soit un homme ou une femme, car le bébé ne distingue pas ça. Il ne dit ni papa ni maman, il y en a qui disent pas maman. Mais ce qu'il y a de curieux, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes dans cette affaire, c'est que les pères ne veulent souvent pas s'occuper des bébés ayant peur d'être assimilés aux mères. Ils disent, mon enfant va me prendre pour une mère. Mais tiens, enfin monsieur, vous n'êtes pas sûr d'avoir un corps d'homme, une odeur d'homme, des appendices d'homme, une voix d'homme, des sourcils d'homme, des oreilles d'homme. Ben, si je fais la même chose que ma femme, mon bébé, il va se tromper. Mais non, il ne va pas se tromper d'odeur. Je vous jure que même aveugle, votre bébé vous reconnaîtrait. Alors les hommes, longuement expliqués, comme ils sont logiques, finissent par dire, je vais essayer. Et quand ils le font, ils découvrent qu'ils ont une grande jouissance et qu'il se passe un mariage très intime entre l'enfant et eux. Ils découvrent une grande intimité, quelque chose de tout à fait unique, qui leur permet de croire que quand l'enfant sera adolescent ou plus grand, il pourra leur parler de choses affectives. Or, jusqu'il y a 5 ans, quand un jeune homme avait quelque chose, le sida, mettons, ou l'homosexualité, hein, des choses qui touchent beaucoup les gens, il allait d'abord le dire à maman, jamais à papa. Pourquoi? Parce qu'on a d'intimité qu'avec les gens qu'on a touchés avec le corps, c'est fondamental. La première intimité avec un bébé s'obtient toujours avec le corps, pas seulement avec la voix, comme le disait Dolto, comme l'ont dit les précédents analystes, qui traitaient le papa de premier étranger. le premier étranger, moi je n'en veux pas. Il existe un homme, c'est un père, l'enfant connaît son odeur et sa voix, c'est un repère, encore plus solide. Hein. Bon. Il n'est donc pas question de le laisser en route, même s'il y a un divorce. Il est question de lui trouver une place de parent correcte. Donc je suis en train de vous parler de plusieurs domaines à la fois, car au moment du divorce se développe quoi ? Une violence épouvantable, chez qui ? Chez le père et chez la mère. Tous les deux redeviennent violents, ce qui veut dire qu'ils ont pu l'être quand ils étaient petits, ils l'ont oublié. Et au moment du divorce, où on dit à chacun, on t'enlève un morceau de toi, alors là, ils deviennent fous, ils retrouvent la violence du bébé qui voulait se défendre de la mort. Les pères et les mères veulent se défendre de la mort, de leur suite, car ils avaient une suite. Et on la leur enlève. Moi, j'ai vu des pères divorcés me dire, moi, on m'a enlevé mon enfant, je ne l'ai pas vu depuis qu'il avait 3 mois. Madame, c'est comme si on m'avait enlevé une jambe. Je suis un homme qui ne marche pas comme les autres. Ou bien d'autres qui me disent, madame, je ne peux pas aller dans un square et voir des petits-enfants qui jouent au sable. Au bout d'un moment, je ne peux plus. Je pense que j'ai un enfant qui est à moi et que je l'ai perdu. Et c'est horrible pour moi. Et quand on entend les hommes dire des choses telles, on se rend compte qu'ils ont une âme paternelle. Il n'y a pas que l'instinct féminin, il n'y a pas que l'instinct maternel. L'instinct, c'est le parent, l'homme ou la femme, qui, avec son enfant, se dit, si un des deux devait mourir, ça serait moi, ça serait pas lui. Pourquoi ça serait pas lui ? Parce que lui est tout neuf, il est tout jeune, il a toute la vie devant, et le père a au moins déjà 25 ans. Il a peut-être pas fait grand-chose en 25 ans, vous me direz. Mais l'autre a encore plus de chance, parce qu'il est plus jeune. C'est tout à fait naturel, quand vous entendez un parent dire, oh là là, avec tout ce qu'elle me fait, et dire que j'aurais donné ma vie pour elle. Ne trouvez pas ça merveilleux du tout, c'est tout à fait naturel. Chacun de nous, s'il est parent, veut donner sa vie pour son enfant. Et c'est comme ça que nos enfants, quelquefois, sont protégés par nous-mêmes, car nous prenons quelquefois tous les risques. Et c'est bien ainsi. Je veux revenir à cette culpabilité des femmes qui gêne tellement les mères pour donner des punitions, des corrections, gronder l'enfant, lui dire non. Elles ne veulent, comme elles passent peu de temps, elles arrivent à 6 heures du soir, elles vont chercher l'enfant très très vite à la crèche, elles sont affolées, elles prennent l'enfant, elles l'embrassent. Déjà l'enfant se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Jamais maman ne fait ça. Il dit qu'il y a une histoire d'angoisse quelque part. Et quand elle ramène l'enfant à la maison, c'est tout juste. Si elle fait la cuisine, elle joue avec lui, elle s'amuse avec lui, et tout ce qu'il demande, il aura un bonbon, 2 bonbons, 4 chocolats, une madeleine, etc. Quand on arrive au repas, on n'a plus faim. Eh bien, au repas, on fait des caprices, on dit qu'on n'en veut pas, et puis ça ne fait rien, puis il ira au lit comme ça. Le tout, c'est qu'on l'aime. Moi, je voudrais qu'on enlève de la tête des jeunes parents que un enfant très aimé dans le jeune, très jeune âge fera un adulte heureux.